Décryptage, Marie Casadebé.
2 mois de grève perlée, 2 mois de transport ferroviaire perturbé, des usagers et des entreprises lésés, mais la réforme de la SNCF entrera en vigueur en France le 1er janvier 2020. La loi sur le rail, qui prévoit notamment une ouverture à la concurrence et un nouveau statut pour les cheminots, a été définitivement adoptée ce jeudi au Parlement français. L'intersyndicale appelle pour autant à la poursuite du mouvement le plus long depuis 30 ans à la SNCF. Mais que peut-elle encore obtenir maintenant que le processus législatif est terminé? Quel bilan tiré de ce bras de fer inédit? Nous allons comparer les stratégies du gouvernement comme des cheminots avec nos invités. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Rémi Bourguignon.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes chercheur associé au CEVIPOF Sciences Po, un centre de recherche politique. Vous êtes spécialiste du dialogue social et du syndicalisme. Et nous sommes aussi au téléphone avec Gilles Dansard. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, directeur de Mobilettre, une lettre d'information sur la mobilité et les transports. Alors, ce projet de loi, donc, pour un nouveau pacte ferroviaire a été définitivement adopté aujourd'hui, malgré 2 mois de grève des cheminots pour tenter de l'empêcher. Avant de regarder de près comment cet épisode s'est déroulé, une question toute simple, messieurs. Est-ce que ce sont pour vous 2 mois de grève pour rien? Rémi Bourguignon.
Alors l'heure du bilan va venir, notamment pour les organisations syndicales, elles vont se poser cette question. C'est difficile d'y répondre comme ça spontanément parce que les syndicats étaient déjà sur des revendications assez différentes entre la CGT, Sudrail, d'un côté, qui était plus sur un mot d'ordre qu'ils ont toujours d'ailleurs, qui est le non à l'ouverture du marché du ferroviaire, et puis CFDT, UNSA, qui dès le départ étaient d'accord pour négocier et ont été obligés d'entrer en mouvement pour contester la méthode d'Emmanuel Macron. Donc pour ces syndicats dits réformistes, eh bien, finalement, ils ont réussi à créer une négociation, ils ont fait bouger un peu les lignes. Malgré tout, c'est vrai que 2 mois de mobilisation, c'est beaucoup, et on se demande au regard de ce qui a été gagné, si vraiment c'est une opération qui a été efficace. Quoi.
Gilles Dansard, votre avis, 2 mois de grève pour rien?
Oh, je ne crois pas, puisque par rapport aux déclarations du Premier ministre le 26 février et le point d'arrivée de la loi votée hier et aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a de grandes différences. Prenons par exemple la question du désendettement et de la trajectoire financière de SNCF Réseau. Bercy n'aurait jamais pensé qu'il devrait accepter un transfert de 35 milliards d'euros de dette. Et l'augmentation de ce qu'on appelle le CAPEX, c'est-à-dire la subvention de l'État à l'infrastructure ferroviaire, de plus de 100 millions, alors qu'il espérait la réduire d'un milliard d'euros.
Alors, dans Décryptage, Gilles Dansard, on va peut-être pas entrer dans les détails de cette réforme. En tout cas, on entend que pour vous, le texte a évolué sous la pression des grévistes et des manifestants ces 2 derniers mois.
Tout à fait. C'était pour bien signaler que, en fait, les syndicats, s'ils ont perdu sur les symboles, c'est-à-dire sur le statut, sur l'ouverture à la concurrence, etc., dans les détails de la loi, ils ont gagné beaucoup de choses sur le transfert des cheminots lors des appels d'offres des TER, sur l'unité sociale du groupe, sur y compris les conditions de la future convention collective qui succédera au statut des cheminots, ils ont gagné beaucoup. Donc on peut pas dire que cette grève n'a servi à rien. Certes, ils ont du mal à dire à leurs troupes, aux cheminots qui ont fait grève, qu'ils ont gagné, parce que facialement, ils ont perdu sur les symboles, mais sur les détails, ils ont fait énormément progresser les textes de loi.
C'est ça, Rémi Bourguignon, ça va être difficile aussi de dire aux Français, finalement, que les syndicats, là, dans ce bras de fer, ont gagné.
Bien sûr, parce que dans ce type de situation, il y a toujours deux posture possible, hein, qui renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, ceux qui vont s'opposer à l'ouverture du marché, ceux qui vont plutôt en négocier les conditions. Et effectivement, un travail a été fait quand même assez important pour s'assurer que l'entreprise soit compétitive dans le futur marché. Donc la question de la dette ou des subventions, etc., c'est quoi? C'est finalement mettre l'entreprise dans une capacité à affronter le marché, et à la fois en termes de conditions sociales, d'harmonisation des règles pour les futurs concurrents et en termes de capacité d'investissement de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'un travail important a été fait. C'est une victoire, mais c'est beaucoup moins facile à faire passer comme mot d'ordre auprès de l'opinion et auprès des cheminots.
C'est assez technique et on suppose que les usagers ne vont pas retenir cela de ce mouvement. On va s'arrêter sur ce mouvement qui a accompagné l'examen du projet de loi. Je vous propose d'écouter la fermeté du Premier ministre Édouard Philippe. C'était début mai, après sa rencontre avec les syndicats de cheminots. La grève durait déjà depuis un mois.
J'ai donc rappelé aux organisations syndicales que le gouvernement avait pris trois décisions validées par l'Assemblée nationale à une très large majorité sur lesquelles nous ne reviendrions pas. L'ouverture à la concurrence, la fin du recrutement au statut au 1er janvier 2020, le changement du statut de l'entreprise au 1er janvier 2020. Le gouvernement ne reviendra pas sur les grands principes. Je veux être très clair sur la fermeté que j'ai exprimée et que j'assume pleinement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus rien à discuter. Les concertations qui ont d'ores et déjà été menées ont été très utiles. J'ai donc invité les organisations syndicales à poursuivre ce dialogue.
La fermeté donc du Premier ministre français sur les grands principes de cette réforme, mais l'ouverture au dialogue, ça peut paraître paradoxal. Rémi Bourguignon, à quel point il y a eu dialogue, vraiment, dialogue social entre le gouvernement et les cheminots ces deux derniers mois ?
Ça peut paraître paradoxal, mais la cohérence qui est derrière, ou en tout cas la rationalité politique qui est derrière, c'est de dire, au fond, il y a une responsabilité politique, elle revient aux élus et à la démocratie politique. C'est pour ça qu'il y a une telle référence au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Il prend soin de préciser que l'Assemblée nationale a largement validé en disant, il y a une légitimité politique à ces trois décisions, ce qui n'empêche pas d'aller dialoguer sur les modalités. Mais on dit aux cheminots, vous ne parlerez que des modalités. Au fond, Emmanuel Macron et son gouvernement pensent que les syndicats sont des représentants d'intérêts particuliers comme les autres. Ils sont légitimes, mais ils sont légitimes comme d'autres intérêts particuliers, comme les usagers, par exemple, comme les Français. Il y a de l'argent public qui est mis dans la SNCF, donc ça regarde le contribuable. Et donc, ils ne leur donnent pas une place prépondérante. Il ne dit pas que c'est à eux de décider de la réforme ou de s'y opposer. Il y a une décision politique, elle s'impose, mais à la limite, on veut bien discuter avec eux des modalités parce qu'ils sont un groupe d'intérêt comme les autres. C'est un peu ça son mode de pensée. Ça a perturbé les syndicats qui étaient habitués à ce qu'on leur donne une place plus importante dans la construction des réformes.
Ces discussions étaient artificielles ou finalement, on l'a entendu, ça a amené quand même à des évolutions importantes pour les cheminots. On n'a pas discuté juste pour la forme.
Non, elles n'ont pas été artificielles. La deuxième chose qui a perturbé les organisations syndicales, c'est que on n'a pas fait de négociation, on a fait du dialogue, c'est-à-dire on se rencontre, on discute, le gouvernement prend la température sur les positions de chacune des organisations syndicales, mais se garde à la fin toute marge de manœuvre pour arbitrer. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour les organisations syndicales, notamment quand elles manquent de confiance dans le gouvernement, ce qui est le cas avec ce gouvernement, puisque jusqu'au bout, elles ont peur des arbitrages qui vont être pris. Et c'est ça qui explique que les syndicats sont restés et continuent encore à aujourd'hui dans la mobilisation. Parce que jusqu'au dernier jour, donc là aujourd'hui, effectivement, ça a été voté, donc on va voir comment ça bouge dans les prochains jours. Mais jusqu'au dernier moment où il pouvait y avoir des arbitrages, il fallait rester dans la mobilisation. Donc il y a eu discussion, mais avec une méthode un peu particulière.
Gilles Dansart, face au gouvernement, les quatre organisations syndicales de la SNCF aujourd'hui, alors on le disait, les tensions vont sûrement apparaître, même si elles apparaissent déjà un peu, pour décider de la suite à donner au mouvement. Comment vous avez perçu l'unité de cette intersyndicale dans le temps ? Est-ce qu'elle a été mise à mal ?
Elle a résisté très longtemps, elle est en train de s'effilocher, mais elle a résisté très longtemps et c'est ça, sans doute ça qui a permis d'éviter que le gouvernement ne fasse passer son projet de loi de façon trop facile à leurs yeux. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en mémoire le début du conflit, c'est-à-dire que le gouvernement considérait qu'on avait procédé par ordonnance. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Il y a eu une co-construction assez inédite de la loi. On a dit aux députés, aux sénateurs, on va vous faire une loi, mais on va la nourrir des réflexions qu'on a avec les syndicats, ce qui est quand même assez inédit dans le processus législatif. C'est-à-dire que les syndicats se sont aussi adaptés à ce processus totalement inédit dans la Ve République. D'habitude, ça se passe plutôt en coulisses, et là, on leur a dit, vous allez nous aider à faire la loi. Donc, on a vu une construction pas à pas d'un texte de loi, qui d'ailleurs était d'assez mauvaise qualité en sortant de l'Assemblée nationale, qui s'est enrichi au Sénat. Et les syndicats se sont montrés finalement assez souples. Évidemment, de façon prioritaire, les syndicats réformistes, la CFDT et l'UNSA, mais de façon aussi un peu surprenante, la CGT. Et donc, la loi telle qu'elle est aujourd'hui votée, elle doit beaucoup à l'apport des syndicats. Donc ça, on ne se doutait pas au début du conflit que ça allait se passer comme ça. Donc, pour plein de raisons, les syndicats ont gardé une unité le plus longtemps possible, les réformistes nourrissant la loi, les syndicats plus radicaux étant réservés, mais laissant faire finalement leurs collègues pour éviter le pire. Donc chacun dans sa posture, avec une unité finalement sauvegardée pendant 3 mois, c'est assez remarquable à constater, parce que on n'avait jamais vu un pouvoir aussi vertical prendre en main l'avenir de la SNCF. Et finalement, les syndicats s'adaptaient de façon assez opportuniste.
On comprend bien cette intersyndicale assez inédite. On reviendra sur la forme aussi inédite du mouvement de grève des cheminots. Mais je voudrais qu'on se penche sur la mobilisation qui a accompagné donc l'évolution de ce texte. Un peu moins de 13% de grévistes hier. La moitié sont des conducteurs de train. Ce sont donc des postes qui ont un effet évidemment sur le trafic. Et au lieu de 34% début avril, à tel point d'ailleurs que la SNCF se félicitait que le mouvement ne se sentent plus du tout sur les grandes lignes TGV. Rémi Bourguignon, comment vous analysez la mobilisation des grévistes ? Est-ce qu'un effritement après deux mois, ce n'est pas inéluctable ?
L'effritement vient toujours par définition avec le temps, et donc c'est vrai que au bout de deux mois, arriver à tenir un mouvement, c'est quand même très compliqué parce que c'est coûteux pour les agents et pour les personnes qui sont mobilisées. Ce qui est peut-être remarquable ici, et ça renvoie à la question de la durée de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui a été décidé un peu par le haut dans les organisations syndicales. C'est un peu original aussi, c'est-à-dire qu'habituellement les décisions d'entrée dans des mouvements de mobilisation dans la grève se décident par le terrain, les salariés réunis en assemblée générale décident de s'engager. Ici, c'est pas ce qui s'est passé. Et notamment au nom de l'union intersyndicale dont on parlait à l'instant, eh bien c'est plutôt les dirigeants de fédérations qui se sont entendus pour s'engager dans ce mouvement de grève. Et quand on a ce type de démarche, eh bien c'est plus compliqué de mobiliser, parce qu'une fois qu'on a décidé dans les bureaux et il faut aller voir les cheminots en disant bah maintenant ce serait bien de faire grève parce que on a menacé de faire grève pendant trois mois, c'est beaucoup plus compliqué pour les syndicats. Et ils espéraient qu'il y ait une prise d'ampleur, mais en fait c'est pas ce qui s'est passé. Les plus gros taux de mobilisation ont été au début du mouvement, à quelques exceptions.
Et vous évoquiez aussi la durée de cette grève, on en est à un peu plus de deux mois, le texte a été adopté, il reste quasiment un mois, un peu plus de 15 jours. C'est aussi rare que des syndicats décident d'une grève de trois mois.
Oui, et de planifier, d'annoncer avant même qu'on s'engage dans une grève, la fin de la grève. La grève, par définition, on n'annonce pas une fin, puisqu'elle les reconductibles, elle est relancée au quotidien en fonction de la mobilisation. Donc l'annoncer par avant était déjà quelque chose d'un peu surprenant, mais qui va avec cette idée d'avoir une méthode un peu particulière, ces fameux deux jours sur cinq, qui permettait d'essayer de limiter le coût pour les individus, c'est-à-dire avoir le plus de perturbations possible avec le moins de coût pour les individus, parce que les syndicats savaient très bien qu'ils allaient avoir des difficultés à mobiliser, ils en avaient pleinement conscience avant. C'est là où il y a eu des discussions entre les syndicats en disant, est-ce qu'on prend le risque de s'engager dans ce type de mouvement alors qu'on sait qu'on va avoir du mal à mobiliser, et le compromis s'est forgé sur cette méthode un peu originale qui perturbe beaucoup, mais qui est en fait le reflet d'un compromis entre les organisations syndicales.
Il y a des leçons alors à retenir de cette grève, et notamment de cette forme. Vous le disiez, deux jours de grève pour trois jours de travail, il fallait vraiment avoir son agenda sous les yeux. Réformer la SNCF, en tout cas, c'est pas une idée nouvelle. Emmanuel Macron n'a eu de cesse de le répéter. Le président de la République qui a joué les pédagogues dans les médias, notamment dans le journal de 13h de TF1, c'était le 12 avril dernier.
Aller au bout, parce que nous devons faire cette réforme. Elle est indispensable. Et il y a une hypocrisie collective à ne pas le faire. Ça fait 20 ans que notre pays, toute majorité confondue, a décidé qu'on devait ouvrir le transport ferroviaire à la concurrence. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose. Vous téléphonez tous les jours, les prix ont baissé parce qu'il y a eu un peu plus de concurrence. Ça permet de faire mieux fonctionner les choses. C'est pas un but en soi, mais ça permet de faire mieux fonctionner. On a besoin d'un chemin de fer français fort. C'est bon pour un pays, c'est bon pour faire justement que tous les territoires puissent se rejoindre, et c'est indispensable pour
nos concitoyens. La réforme va le renforcer.
Et la réforme va le renforcer.
Ça fait donc 20 ans qu'on parle de cette réforme sans la faire, dit Emmanuel Macron. Pourquoi était-il temps, selon lui, Rémi Bourguignon ? Pourquoi a-t-il pensé que la France était prête finalement à engager cette réforme ?
Oui, il dit 20 ans, c'est même un petit peu plus, parce que c'est au début des années 90 que la perspective de l'ouverture des marchés ferroviaires en Europe est décidée. Et en France, elle commence à avoir d'ailleurs des effets concrets dans les années 90. En 97, il y a une réforme qui était importante pour SNCF. On avait séparé deux activités, c'est l'activité de transport, de mobilité des personnes, et puis l'activité plutôt de gestion des rails, des infrastructures, ce qu'on appelait RFF. Et à l'époque, on avait séparé ces deux entreprises dans la perspective de l'ouverture. Donc vous voyez, 1997. Donc il a raison quand il indique que ça fait très longtemps que cette idée est sur la table. On sait que c'est la perspective, mais que les gouvernements ont les uns après les autres reculé. Alors effectivement, il utilise aujourd'hui beaucoup cette réforme pour montrer son courage politique, pour dire là où mes prédécesseurs ont reculé, eh bien moi j'ai la capacité à aller au bout. Et ça a été finalement, après coup, on se dit, plus facile que ce qu'on imaginait. Mais au fond, il y a une forme de maturité, précisément parce que ça fait 20 ou 25 ans qu'on en parle, c'est plus facile à faire, parce que les cheminots savent depuis très longtemps, ils en parlent, ça fait partie de leur quotidien, et donc cette perspective de l'ouverture, ils l'ont intégrée. Mmh. D'ailleurs, ils ont déjà commencé il y a quelques années la négociation de la fameuse convention collective qui n'a de sens que par rapport à l'ouverture, et quant à la question du statut des cheminots, là aussi, la SNCF recrute déjà des salariés en dehors du statut, ils sont aujourd'hui près de 12% des salariés de la SNCF à être hors statut. Donc c'est des idées auxquelles les cheminots se sont progressivement habitués, ce qui explique pourquoi aussi ils se sont peut-être faiblement mobilisés sur, même s'ils sont contre l'ouverture, hein, la consultation interne a montré qu'ils étaient très majoritairement contre, mais ils se sont peu mobilisés. Pourquoi ? Parce que ils ont intégré depuis longtemps que c'était la perspective et qu'on irait dans cette direction. Et la fermeté affichée par le gouvernement, et vous avez mis un extrait d'Edouard Philippe tout à l'heure, montre bien que de toute façon il n'y avait rien à jouer, ça allait venir. Donc les cheminots ont été là-dessus assez pragmatiques en disant ça sert à rien d'aller se mobiliser, ça va nous coûter cher pour pas grand-chose. Et ça a été un vrai piège pour les organisations syndicales.
Gilles Dansart, est-ce que la subtilité de ce projet de réforme, c'était justement ce futur statut des cheminots qui ne concerne pas donc ceux qui sont déjà en poste, mais la nouvelle génération, une nouvelle génération qui souvent n'espère plus un emploi à vie comme leurs aînés?
Oui, je serais un peu plus circonspect sur la stratégie du gouvernement qui voulait avoir le totem de la fin du statut pour des raisons politiques évidentes, mais je pense qu'il a un peu sous-estimé ce que ça provoquait au sein du corps social cheminot. Même si les pourcentages de grévistes n'ont pas été très forts globalement, le fait que 2 mois et demi après le début de la grève, il y a encore plus de 50% des conducteurs et presque une majorité de contrôleurs qui sont en grève lors des grèves de 2 jours, ça montre que c'est mal passé au sein de la SNCF, parce que c'est quand même une des dernières grandes entreprises où quand on y entre à 20 ans, on en sort 35 ans plus tard. Certes, il y a des contractuels, certes, il y a des profils de carrière qui ont un peu évolué, mais c'est quand même une entreprise qui résiste un peu à cette idée d'un marché du travail assez ouvert, aller avec la concurrence, on va aller essayer de faire grossir son salaire chez un opérateur privé. Donc toutes ces idées-là sont pas évidentes, et donc l'ensemble du corps social a un peu résisté à cette accumulation de réformes qu'il ne pensait pas voir venir de façon aussi groupée en ce printemps. Donc il a été pris par surprise, et aujourd'hui on peut considérer que l'ensemble des cheminots, cadres y compris, sont un peu groggy, ont un peu le moral dans les chaussettes, si je puis parler ainsi. Et donc, la stratégie du gouvernement va laisser des traces. D'autant plus que pendant 1 an et demi, l'entreprise va être complètement bouleversée par la révolution managériale, financière, juridique qui est promise dans les textes de loi.
Donc, je pense que vous l'avez dit, Gilles Dansart, oui. C'est vraiment la SNCF est vraiment un symbole de l'entreprise publique. Alors il y a d'autres mouvements qui ont essayé, en tout cas les cheminots ont essayé de les greffer, les universités, les hôpitaux, les maisons de retraite publiques, les retraités. Rémy Bourguignon, est-ce que cette fameuse convergence des luttes a fonctionné? On a vu des manifestations avec 1 millier d'étudiants à Paris. Est-ce que ça pouvait prendre ? Est-ce que les cheminots pouvaient trouver comme ça un soutien à l'extérieur de la SNCF ?
Cette idée de convergence des luttes est au fond portée surtout par un des 4 syndicats de la SNCF, c'est la CGT, puisque c'est un mot d'ordre assez ancien, et régulièrement dans les mouvements sociaux, ils cherchent à avoir cette convergence des luttes, qui est l'idée de dire raccrochons à un mot d'ordre un peu plus général, ce qui permet d'additionner les mobilisations. Et là, ça a été tenté à plusieurs reprises. Ça a été tenté avec les fonctionnaires. Ça a échoué, les fonctionnaires ont préféré garder un agenda propre, tout à fait indépendant de la SNCF. Ensuite, ça a été tenté avec d'autres bastions CGT, ça a également échoué, et finalement, ils l'ont tenté avec le politique, et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que quand on fait des mots d'ordre trop globaux, eh bien, les gens se sentent moins concernés, se mobilisent moins facilement que quand c'est un mot d'ordre très précis et qui les concerne.
L'intersyndicale de la SNCF, en tout cas, appelle à une mobilisation massive le 28 juin, ce sera le dernier jour de son calendrier d'arrêt de travail. Elle espère maintenant peser sur les négociations de la nouvelle convention collective de la SNCF. Merci Rémy Bourguignon. Merci. Merci à Gilles Dansart et merci à toute l'équipe de Décryptage, Eleonora Farad, Laurent Sarniguet, Gérard Perrault et Claude Battista.